sur Radio Campus Tours, vous écoutez Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons reçu ici dans notre studio Sonia Pareux qui nous présentait le festival Autrement dit, festival autour du handicap. Elle présentait le festival de cette façon.
Pour vous dire, moi je suis référente handicap sur le département d'Indre-et-Loire et j'ai en charge l'inclusion des enfants malades ou handicapés en milieu ordinaire. Et je me suis vite rendu compte en faisant inclure des enfants en situation de handicap avec des enfants, on va dire, valides, que c'était assez compliqué et que pour les familles, c'était un véritable parcours du combattant pour faire inclure leurs enfants. Et on se rend bien compte que le handicap, d'une manière générale, fait peur parce que je crois qu'on a peur de ce qu'on méconnaît quand on ne sait pas. Et on a voulu justement, alors je dis on parce que je suis pas toute seule à monter ce projet, mais en tout cas on a voulu essayer de faire bouger les représentations et faire un festival qui serait à la fois accessible, donc on serait évidemment tous ensemble dans l'idée d'un mieux vivre ensemble, donc personnes handicapées et personnes valides. Donc c'est ça en fait, les valeurs et les convictions qu'on veut défendre avec l'association Autrement dit Touraine. Voilà, c'est un festival pour tout le monde avec une véritable programmation, avec des concerts qui sont traduits en langue des signes, avec un concert, notamment le concert des DJ qui sera, en plus d'être traduit en langue des signes, sera aussi audio décrit, avec tout un tas de choses qui permettent l'accessibilité. Par exemple, un espace répit pour les familles et qui auraient un enfant avec des troubles du comportement ou un enfant atteint de troubles du spectre autistique, avec des chemins facilités pour les personnes en fauteuil, avec l'idée de pouvoir que les personnes se repèrent bien de pictogrammes, par exemple, sur les stands. Voilà, on a des colonnes vibrantes et lumineuses aussi prêtées par Terre du Son.
Et comme à Campus, nous sommes de nature curieuse, nous sommes allés sur place, nous nous sommes rendus sur le festival Autrement dit à Mont-Louis le week-end dernier et nous avons pu rencontrer l'association ALEPA, association activités et loisirs éducatifs pour personnes avec autisme, et nous avons également rencontré le CRA, le Centre Ressources Autisme de l'hôpital Bretonneau. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes ici sur le festival Autrement dit et je vois que vous êtes là avec votre équipe au t-shirt orange sur une caravane qui parle de l'autisme. Alors quelle est cette caravane et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens ici ?
Alors ouais, donc bonjour à tous. Donc c'est une caravane de sensibilisation à l'autisme. Donc on est porté par l'association ALPA qui a déjà plus de 20 ans d'expérience dans l'autisme. Donc à l'origine on a un centre de loisirs pour personnes autistes, mais pas que, il y a pas mal de choses qui sont organisées à l'ALPA. À tout niveau, on fait des interventions lors des cinémas différents, on fait des spectacles et on encourage la mixité pour que les personnes viennent de tout niveau, centre de loisirs, d'autres personnes avec d'autres handicaps. On mélange tout ça, on fait de la sensibilisation. Et donc là, actuellement, avec la caravane, on a des jeux en bois, des jeux de plateau. Et en fait, on s'en sert pour déjà attirer le public, pour faire de la sensibilisation, pour leur dire que l'autisme ça existe et que c'est quelque chose qui touche beaucoup beaucoup de familles. Mine de rien, une naissance sur 100 maintenant c'est une personne autisme, donc c'est pas rien au final. On attire, on fait de la sensibilisation, donc en centre de loisirs, en école et lors d'événements comme ce festival.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait expliquer à des personnes qui ne connaîtraient pas d'autres personnes porteuses d'un autisme ? Qu'est-ce qui peut être déroutant peut-être pour des gens qui ne connaissent pas de personnes autistes ?
Alors qu'est-ce que l'autisme ? L'autisme c'est très large, c'est très très large. On va retrouver surtout trois choses. La triade de l'autisme c'est plutôt le terme, ils ont des petits soucis de communication. Donc il y en a certains qui n'ont pas du tout accès à la parole, d'autres qui ont d'autres accès un petit peu plus. Ça tout dépend des niveaux. On va retrouver des personnes Asperger, donc des autismes de haut niveau et d'autres de niveau un peu plus bas. La deuxième, c'est la socialisation. Donc, c'est pas des personnes qui vont avoir tendance à aller vers les autres. Donc, c'est pas pour ça qu'ils veulent pas partager des choses avec vous. C'est parce qu'ils ont des craintes, ils ont des peurs, ils ont des choses comme ça. Et puis, la troisième particularité, c'est des intérêts restreints. Donc, bah, ça se retrouve à tout niveau, soit des personnes qui vont jouer avec une corde et c'est rassurant pour eux, ils vont la faire tourner autour d'eux ou quelque chose de rond, ils vont scotcher pendant des heures dessus. Et après on va retrouver des intérêts particuliers, des personnes qui vont être très douées en informatique et avoir des facultés extraordinaires. Et d'ailleurs il y a des grandes entreprises qui peuvent les recruter pour ça, tout simplement. L'autisme, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, bah, ça peut être une hypersensibilité au niveau du bruit, ça peut être au niveau du toucher, ça peut être des réactions inadaptées ou surprenantes, des cris, ils peuvent se mordre. On peut retrouver pas mal de choses, mais toutes les personnes sont différentes.
Et alors pourquoi vous ça vous intéresse ? Pourquoi vous ça vous intéresse en fait de sensibiliser les personnes à l'autisme ?
Alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que ça peut arriver déjà à tout le monde. Demain, vous avez un enfant qui va naître, ça peut vous toucher. Et quand ça arrive, on se retrouve démunis, on fait un déni presque, on va dire ah non, c'est pas possible, et puis on va mettre de côté. Mais le problème, si on fait ça aussi, qu'on n'a pas les outils pour aider ces personnes à faire face à ce handicap, plutôt la personne va être prise en charge. Plus on est jeune, plus le jeune va s'en sortir et avoir des facultés qui vont se développer. Il va être aidé dans ce niveau-là. Mais plus on prend sur le tard, plus ça va être difficile pour eux.
Voilà, donc c'est pas de la prévention, mais c'est donner toutes les chances possibles à ces jeunes de pouvoir avoir la vie la plus heureuse avec d'autres personnes.
Voilà, exactement. C'est qu'ils s'intègrent dans notre société et qu'ils soient acceptés aussi par la société. Et c'est là qu'on essaie de travailler. Donc on va surtout faire de la sensibilisation en école pour rendre les plus jeunes, dès les plus jeunes, pour qu'ils comprennent ce que c'est et pas qu'ils les repoussent, qu'ils les aident. Changer l'esprit, l'état d'esprit, tout simplement.
Et dernière question, est-ce que c'est vrai d'après vous qu'en France on est assez en retard pour tout ce qui est intégration des personnes autistes ?
Clairement oui, c'est un retard, c'est colossal. Et même dans les autres pays, c'est pas une avancée... On va dire au Canada, ils ont quelques avancées, beaucoup plus avancées que chez nous, mais c'est une question de mentalité aussi. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire, et pas que au niveau de l'autisme, tous les handicaps en général, et beaucoup d'autres sujets aussi. Mais ça rapporte pas, donc c'est pas des priorités peut-être pour certaines personnes.
Ouais. C'est d'ordre financier alors ce retard, à votre avis ?
C'est ce que je pense, à mon niveau. Après, c'est que ma pensée.
Ben merci beaucoup à vous. Et est-ce qu'on peut retrouver peut-être vos actions ? Est-ce que vous avez un site internet, un blog ? Est-ce que vous avez une page Facebook ou quelque chose comme ça ?
Alors oui, on peut nous retrouver donc sur internet, c'est alepa.fr, A-L-E-P-A. On peut aussi nous retrouver sur Facebook, sur le même nom, Alepa. Sinon, on a aussi un Facebook sur la caravane de sensibilisation, c'est la Ludifférence. Voilà. Sinon, après, nous retrouver tout simplement à Poitiers. Et si vous des organismes cherchent des formations, on s'est lancé aussi dans les formations pour aider à tout public à sensibiliser aussi, à connaître l'autisme et à avancer dans les états d'esprit. Quoi.
Bonjour.
Bonjour. Alors le Centre Ressources Autisme, en fait, a des missions d'information de toute personne intéressée par l'autisme. Donc dans le cadre de ces missions, en fait, on peut très bien répondre effectivement à des questions d'un employeur, mais de toute personne en fait, qui va avoir des questions ou être plus particulièrement intéressé par des aspects de la vie quotidienne d'une personne avec autisme. Donc le Centre Ressources Autisme, en fait, c'est un établissement médico-social qui a des missions donc, d'information de toute personne intéressée par l'autisme, comme je vous le disais, de formation, donc plus particulièrement des professionnels et des aidants. Donc les aidants, dans notre jargon, ce sont les parents et les personnes en fait, qui vont accompagner au quotidien, bénévolement, les personnes avec autisme. On a des missions d'appui au diagnostic ou de diagnostic et d'évaluation fonctionnelle des personnes avec autisme. Au CRA Centre-Val de Loire, on fait également de la recherche. Et puis, on participe à l'animation du réseau des professionnels qui œuvrent dans le champ de l'autisme. Voilà. On a également des missions d'appui et d'expertise aux instances, donc que ce soit départementales, régionales ou nationales. Mais ça, c'est plus. Alors moi, je suis Patricia Chauvin, je suis la CAM de santé au CER. Donc en fait, moi, je m'occupe de l'organisation, de la mise en œuvre des missions. Voilà.
Moi, je suis Julie à la recherche, je suis psychologue au CRA et donc j'ai une mission de psychologue au CRA, c'est-à-dire évaluation, participation au bilan pluridisciplinaire, animation du réseau, des psychologues mais aussi d'autres professionnels, je participe aux formations, enfin comme tous les professionnels du CRA, je remplis l'ensemble des missions du CRA. Et vous, madame ?
Agnès Guier, je suis enseignante spécialisée. Et donc j'ai 3 cartons au CERA et 1 carton à l'hôpital de jour où je continue à enseigner auprès d'enfants avec autisme. Et sur la partie CERA, donc je participe aux actions de formation auprès des enseignants, enfin auprès des personnels de l'éducation nationale. Et je peux aussi ponctuellement intervenir au niveau des bilans qui sont faits quand il y a des enfants par exemple qui sont déscolarisés. Voilà, et puis je travaille en équipe et pour voir comment au mieux favoriser l'inclusion scolaire pour les enfants avec autisme.
Est-ce que vous trouvez qu'on est en retard en France pour la prise en charge des personnes avec autisme ?
Dans la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui est donc qu'on appelle parfois le quatrième plan autisme, il est écrit en toutes lettres, effectivement, que dans l'engagement numéro 3, que l'on doit rattraper notre retard en matière de scolarisation. Donc voilà, c'est dit, enfin, c'est une réalité. Et il y a effectivement eu quand même une ouverture, il y a de plus en plus d'enfants avec autisme qui sont accueillis à l'école par rapport à il y a plus de 20 ans. C'est la loi de 2005, je crois, qui a vraiment permis aux enfants d'arriver puisqu'il y avait le droit de la compensation et l'aide humaine. Mais pour autant, je crois que là où le bas blesse, c'est vraiment en termes de formation. Le personnel d'éducation nationale n'est pas encore assez formé et reste très frileux dans l'accueil des enfants, des jeunes, parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne connaissent pas l'autisme, ils ne savent pas comment faire. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment un réel rôle à jouer. Ça commence à se mettre en place tout doucement, mais je pense que ça va être un travail de longue haleine.
On est devant un espace qui s'appelle la pause sensorielle. Donc c'est justement un espace qui va permettre de donner un temps de répit aux personnes qui ont des particularités sensorielles, qui peuvent être à un moment en fait en trop plein de sensations sur un festival comme celui-ci où il y a du monde, de la chaleur, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses à regarder, mais également du bruit en continu. Donc en fait ici on leur propose un temps où ils vont pouvoir trouver un espace à l'écart, non visible des autres, où donc ils vont pouvoir se détendre, se poser, mais également avoir accès donc à des outils donc qui vont leur permettre de se recentrer un petit peu sur ce qu'ils ressentent.
Alors ces personnes en fait qui se sentent peut-être pas bien ou agressées sur ces festivals, à quoi c'est dû en fait ? Pourquoi certaines personnes plus que d'autres peuvent être mal à l'aise sur ce genre d'événement ?
Alors en fait, nous on s'adresse plus particulièrement à des personnes avec autisme dont on sait qu'elles ont un profil sensoriel particulier qui leur est à chacun individuel d'ailleurs. Et donc on sait que ces personnes, elles ont besoin qu'on adapte un certain nombre qu'on fasse des aménagements pour qu'elles puissent se sentir bien dans l'environnement qui les entoure. Donc on sait également que le profil sensoriel, c'est pas uniquement quelque chose qui est particulier aux personnes avec autisme, mais en l'occurrence au centre ressources autisme, c'est notre travail. Et donc ces personnes, elles ont sur le plan dans leur développement, dans leur neurodéveloppement, des particularités qui font que elles se retrouvent en difficulté sur l'un ou les autres de leurs sens. C'est-à-dire il y a les 5 sens plus le sens vestibulaire, et donc on sait que ces personnes, elles peuvent avoir des fragilités, et donc elles ont besoin d'une compensation et qu'on les aide à accepter, à supporter l'environnement qui les entoure.
Est-ce que vous voulez nous dire par exemple qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace ? Quels outils vous avez apportés pour qu'on se fasse une idée ? Alors qu'est-ce qu'on trouve ?
On a pensé cet espace comme un espace, le mot c'est pas confiné, alors comme un espace à part qui permettent à ces personnes de pouvoir s'asseoir sur des matériaux qui sont suffisamment souples mais suffisamment durs pour que ça maintienne leur corps, pour qu'elles aient accès à du matériel lesté, par exemple des couvertures, des tours de cou lestés, des coussins lestés, qu'elles puissent également bénéficier de casques audio pour réduire les surstimulations sonores, qu'elles aient également une capacité à anticiper le temps qu'elles vont passer ici. On a pris des minuteurs visuels pour ça. On a également des objets très doux de stimulation visuelle pour justement favoriser l'apaisement, des œufs lumineux, je ne sais pas comment ça s'appelle, une petite gerbe lumineuse. En tout cas, des balles à picots, des ballons, mais à du matériel qui ne soit pas excitant sur le plan sensoriel, mais qui permette un recentrage sur le plan sensoriel. Voilà, brasser des plumes, pouvoir manipuler un petit bâton sensoriel avec des brillants à l'intérieur, pouvoir s'asseoir, pouvoir bénéficier d'un petit espace de pause à l'écart du reste.
Et cet espace, vous le voyez, il est vraiment dénudé, en fait, hein, pour que justement les personnes puissent poser leur regard également, c'est-à-dire faire diminuer leur attention. Parce qu'en fait, de par leur particularité sensorielle, les personnes avec autisme, elles sont souvent très très intéressées par tous les détails. Donc il y a plein de couleurs sur le festival, il y a plein de belles choses, et ça c'est fatigant, parce que ça leur demande un effort, en fait. Chaque fois, elles vont passer beaucoup de temps à observer tous les détails. Donc nous, on leur propose là un espace tout blanc, voilà, avec très peu de détails, pour justement poser aussi le regard.
Donc ça veut dire que c'est un espace de ce type, donc on voit quand même que chaque objet a son utilité, son importance, mais c'est quand même relativement peut-être simple à aménager sur un lieu de travail, par exemple.
C'est très simple à mettre en place sur un lieu de travail, il faut simplement y penser, en fait, mais c'est aussi simple de le faire justement sur un événement festif, et c'est ce qu'on voulait montrer nous là aujourd'hui en venant ici, c'est-à-dire de montrer que même des personnes qui ont en fait des troubles sévères, en fait, peuvent avoir accès à ces événements festifs simplement en leur donnant la possibilité de venir passer quelques minutes. On a vu des gens passer 2 minutes, 3 minutes simplement, se poser ici et repartir, hein, vraiment, histoire de faire redescendre en fait le trop-plein de sensations qu'ils ont perçues partout où ils sont allés.
Est-ce qu'il y a des écoles peut-être, ou des collèges, ou des universités, des lieux comme ça où ce genre d'espace existe ?
Pas à notre connaissance, non. Alors, il y a des lieux d'accueil, surtout hein, des personnes en situation de handicap, qui aménagent des espaces précis, hein, organisés, pensés, avec un projet sensoriel, pour pouvoir accueillir au mieux chaque personne avec son individualité, et son profil personnalisé. Mais à notre connaissance, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, ça n'existe pas.
On va plus le trouver sur les lieux de travail. Sur les lieux de travail, en fait, où les employeurs vont embaucher une personne avec un trouble du spectre de l'autisme, ils vont souvent être accompagnés, en fait, pour justement travailler sur l'environnement de la personne. Donc sur le lieu de travail, autour de nous, on en voit. Mais dans les collèges, les lycées et à l'université, pas encore.
Mais ça pourrait, à votre avis ?
Bien sûr, bien sûr. Après, il faut aussi qu'il y ait un besoin. Voilà. Donc peut-être que le besoin n'a pas été exprimé non plus. Vous voyez ?
On voit avec un espace comme celui-là, donc que des personnes porteuses d'un autisme peuvent venir sur un festival. Est-ce qu'il y a des choses qu'une personne autiste ne peut pas faire, à votre avis ?
Je crois que lorsqu'on pense comme ça, sous cet angle-là, eh bien on oublie qu'il faut qu'on vive ensemble, que c'est important que les personnes avec autisme aient accès à tout ce qui leur plaît, tout ce qui leur conviendrait, et qu'elles puissent réaliser leurs projets. Donc je pense que non, il faut vraiment penser que tout est accessible et que tout est adaptable. Et donc je pense que c'est important de le penser sous cet angle-là. Et d'ailleurs, je trouve que l'exemple d'aujourd'hui, c'est que cette pause sensorielle, elle a bénéficié à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pensait. C'est-à-dire qu'on a vu des enfants avec un développement classique, ils sont venus ici faire du coloriage, des enfants qui sont venus juste voir un petit peu et jouer avec le matériel qui est un matériel qui est normalement adapté. Et on a vu aussi des personnes avec un handicap beaucoup plus lourd ou un autisme qui, elles, ont bénéficié de l'utilisation sensorielle de ces objets. Donc on voit bien que tous ces objets sont accessibles à tous et que c'est un espace qui montre la qualité du vivre ensemble lorsqu'on le met à disposition de tout le monde.
Radio Campus Tour qui s'est allée à la rencontre du CRA, le Centre Ressources Autisme et de l'association ALEPA le week-end dernier à Montlouis sur le festival Autrement Dit. Je vous propose à présent une première pause musicale. Nous allons écouter Balaké Sissoko Tomora. Sissoko Tomora sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Je vous propose à présent d'ouvrir vos oreilles et vos horizons et d'écouter un reportage sur les migrants de Ouistreham proposé par Radio Parleur. Radio Parleur à retrouver sur radioparleur.net.
J'ai commencé à rentrer dans le bénévolat à partir du moment où, venant ici pour mon plaisir, j'ai vu des jeunes gens qui n'étaient pas là du tout pour leur plaisir et qui étaient dans une précarité qui quand même touchait beaucoup. Et pour avoir plus de renseignements, je me suis approchée des pêcheurs qui les connaissent bien. Et donc je suis allée parler un jour en achetant mon poisson. au Poissonnier. Et là, j'ai rencontré une figure ouistreamaise bien connue, femme de pêcheur, qui me dit, en ces termes, « Oui, alors vous comprenez, ces jeunes-là, non mais ils sont tout seuls. Moi, je dis une chose, l'eau, c'est important. Alors moi, hein, je leur donne mon robinet, parce qu'après, on va dire qu'ils sont sales. Hein. Alors si on dit qu'ils sont sales, évidemment, ça va déplaire. Alors je leur donne mon robinet, et puis je leur donne pas que ça. Non, mais vous savez, madame, mais vous savez quoi ? Mais mon mari, mais plus raciste. Il n'y a pas plus raciste que lui, mon mari. Il dit, mais qu'est-ce que t'as à faire avec les noirs, là ? Qu'est-ce que tu fais avec les grands noirs, là ? Ah bah écoute, je leur donne l'eau, tu sais bien, l'eau quand même, l'eau, c'est pour tout le monde. Puis, mais l'électricité, tu te rends compte qu'on paye l'électricité ? Et la dame vendait son poisson au client qui était là, hein, faut pas croire. Hein. Et donc elle m'explique qu'elle a effectivement acheté à ses frais des prises de courant pour que les jeunes puissent recharger leur portable. Elle dit, vous comprenez, madame, vous comprenez. Bon, sans portable, mais qu'est-ce qu'ils sont sans portable? Et puis, maintenant, je vais vous en dire une autre. Mon mari, hein, je vous ai dit tout à l'heure, mon mari. Oui, vous m'avez dit, il est raciste. Eh ben, mon mari, un jour, hein, il en a vu. Parce que dans les rues, vous comprenez, dans les rues, ils se mettent à l'abri. Eh ben, on en a vu un jour, il s'est évanoui. Non, mais il avait, comment qu'on dit, la lipo, l'hyper, je sais pas, thermie, là, enfin bon, bref, il s'est évanoui. Eh ben, vous savez quoi, hein? Eh ben, ces contes bourgeois de Ouistreham, ils passaient devant, ils s'occupaient pas du môme, ils voulaient même pas porter les yeux sur le gamin. Eh ben, qui c'est qui a appelé les pompiers? Eh ben, moi, je vais vous le dire. Eh ben, c'est mon conte mari raciste qui a appelé les pompiers, hein? Vous allez pas le croire, ça? Eh ben, je vous jure que c'est vrai. Début de solidarité.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Je suis Michel, bénévole au CAMO.
Le CAMO, c'est le collectif d'aide aux migrants de Ouistreham. Michel l'a rejoint quelque temps après sa création en septembre 2017.
Alors, mon activité précédente était toute liée à l'éducation nationale. Je suis donc à la retraite et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces jeunes puisque je fréquentais Ouistreham pour mon loisir.
Donc, à ces jeunes, est-ce que tu peux préciser ?
Ah oui. Alors, les jeunes en question sont donc on dit toujours les jeunes, certains disent les copains, moi copains non, mais jeunes oui. Ce sont des Soudanais qui donc sont pour le moment en situation d'attente à Ouistreham, souhaitant rejoindre la Grande-Bretagne par le ferry. On va continuer un peu plus loin. Alors là, en fait, on est dans les endroits où ils se réfugient la nuit, par exemple le port ici. Ça, c'est les vendeurs de poissons. Et donc, il y a un abri. Et on a la chance d'avoir parmi ces gens-là des gens suffisamment compréhensifs pour laisser les prises de courant toute la nuit. Et donc, ils viennent recharger leur portable ici. Voilà. Alors, en face, le petit square, qui d'habitude est investi totalement, parce que c'est un peu, il y a un abri, c'est confortable, est vidé. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur le port et il n'y a plus un migrant. Et pour moi qui évolue ici depuis bientôt 2 ans, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la preuve de l'efficacité du harcèlement policier, puisque logiquement, tous ces lieux-là sont des lieux d'observation des jeunes, puisque c'est juste avant le ferry et qu'ils prennent leur marque un peu ici. Donc on voit que le harcèlement a fonctionné, ils sont ailleurs, ils sont pas là. Alors là, on arrive autour du port. Donc, le port est transformé en ghetto, c'est-à-dire qu'il rappelle des lieux autrement plus sinistres. À l'origine, ce port était entouré de 2 clôtures banales qui se sont modifiées déjà l'année dernière avec des barbelés au-dessus, enroulés, comme dans les camps de concentration, et qui depuis a vu sa clôture quadruplé. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes à 4 clôtures, dont 2 sont entourées de barbelés. Et on va aller un petit peu plus loin. Et plus loin, c'est encore pire, parce qu'il y a des pics au-dessus des clôtures. Il y a des pics d'installer. C'est un nouveau système qui fait qu'au cas où ils auraient envie d'enjamber, ils peuvent s'empaler dessus. Donc c'est quand même bien sinistre. Bon, on va arrêter là. On arrête là. Alors l'année dernière, quand les migrants ont commencé à s'installer ici, sur cette butte qui est entre la route, c'est-à-dire la ville, et puis la mer, il y avait des bosquets très fournis. Et les migrants, ils cachaient leur duvet, ils installaient leur tente la nuit. Et très très rapidement, au bout d'un mois ou deux, on a vu arriver les jardiniers de la ville et tout a été rasé. Et quand on les interrogeait, parce qu'on leur a quand même posé la question, ils disaient non, mais c'est de l'entretien habituel, normal et tout. Et pas du tout. Moi, depuis que je vis ici, je n'ai jamais vu cette butte traitée autrement que par la nature. Et c'était terrible de voir sur ces buttes-là qui sont en face de nous, qui maintenant sont dégarnies, il y avait des vêtements, il y avait des sacs, il y avait des tentes et il y avait des duvets. Et donc, sans aucune vergogne, ils ont tout détruit au même titre que la végétation qu'ils ont rasée. Donc, c'était pas du traitement de jardinage, c'était vraiment déjà délibérément de la part du maire un souci d'évacuer tout ce qui pouvait rappeler les jeunes présents sur son territoire.
Vous avez peur de ce fameux délit de solidarité ?
Alors, pas le moins du monde. Mais alors, franchement, pas loin du monde. L'année dernière, personnellement, moi, j'étais arrêtée alors que je ramenais des jeunes sur Ouistreham. J'ai eu une gentille leçon de morale que j'ai écoutée paisiblement et j'ai recommencé. Bon, voilà, je pense que autant la conviction des jeunes à s'entêter à vouloir aller en Angleterre fait écho à notre ténacité à vouloir les aider. Donc c'est comme ça, je veux dire, on peut nous demander 50 000 fois notre carte d'identité, on peut nous mettre des amendes, et ben on ira au tribunal, on fera. Mais si on a envie d'héberger, on hébergera, c'est clair. Puis ça, c'est sûr. Tout le monde a. Mais c'est normal, non ? C'est humain, quoi. C'est pas... Voilà. Ça, c'est normal. Hein. Enfin, moi, ça me paraît... En fait, l'hébergement sont des jeunes que je rencontre aux distributions, que j'identifie. Alors, moi, personnellement, je prends surtout les plus jeunes parce que je les trouve très fragiles. Mais bon. Voilà. Et donc, on propose... Et on a toujours des refus, c'est comme ça. Ça commence par des refus, ça commence à dire « Non, moi je vais bien, maman, tout va bien », parce qu'ils nous appellent maman. Et bon, et puis après on revient. Et au bout d'un moment, forcément, l'épuisement fait que... Alors ils sont très discrets, ils y vont doucement, ils disent « Oui, ben, je veux bien une nuit ». Mais tu sais, c'est juste pour laver les vêtements. Je dis « Non, mais c'est... moi c'est la nuit ». Bon. Bon, d'accord. Alors, les questions sont toujours les mêmes. Elle est où ta maison ? Est-ce qu'elle est loin ? Et est-ce que je peux revenir demain matin ? Et souvent, est-ce que je peux venir avec un copain ? Alors, comme ça, les sécurise. Deux, c'est mieux qu'un. Voilà. Et donc, on fait comme ça. Et alors après, c'est tout un chemin pour arriver à une vraie confiance. Tout un chemin. Il faut qu'ils soient venus une fois, deux fois, trois fois, pour qu'ils commencent à parler, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils installent leurs fringues dans les placards, pour qu'ils aient leur petit coin à eux, pour qu'ils aient leurs étagères à eux, pour qu'ils s'approprient les choses, les lieux, les gens. Tout va bien après. Mais et après, on les garde en principe jusqu'à ce qu'ils passent. Nous ne sommes qu'une étape et c'est pas forcément qu'ils nous oublient. Alors quelquefois, des mois après, on a un coup de fil. Des mois après. Alors coup de fil heureux, coup de fil déçu, coup de fil... Ça dépend. Quelquefois, on n'a pas du tout de nouvelles. Il faut l'accepter, c'est comme ça. On est une étape dans leur existence, on n'est pas non plus ni la mère, ni le père, ni la famille, ni... C'est une position délicate, surtout pour l'affect. Mais globalement, c'est très, très enrichissant, franchement. Et je trouve que ça serait dommage de se priver de ça. Parce qu'ils sont à nos portes, ils sont là, ils sont chez nous, quoi. C'est... Voilà, c'est... Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent pas, enfin, qui arrivent à ne pas donner... Même un sourire, même un... je comprends pas. C'est pour moi, c'est un truc, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. C'est voilà. On a tous eu des ados, on a tous eu des jeunes. On sait ce que c'est. On peut pas laisser dans la rue, quand même. C'est pas. Puis c'est pas bien compliqué. Hein. C'est pas bien compliqué.
Avec Michel, nous prenons maintenant la direction du quai Charcot. C'est là, à l'entrée du chemin de halage, que trois fois par semaine, le collectif Camo organise sa distribution de repas, de vêtements et de soins pour subvenir aux besoins vitaux de plus de 60 jeunes hommes soudanais et tchadiens présents ce jour-là.
L'équipe des vêtements. Bonjour.
Bonjour. Scarlett.
Enchantée, Scarlett.
Moi, je suis Laetitia, je suis en charge des vêtements depuis novembre 2017. Donc ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'on intervient tous les samedis matins. On récolte des vêtements, on trie et on distribue surtout. On essaye de parer aux besoins urgents, les pantalons déchirés. Le plus difficile, bah, c'est les chaussures. Parce que les chaussures, on a l'habitude de dire que c'est leur maison. Donc ils passent tout leur temps dans les chaussures. Donc c'est important pour eux que ça soit confortable. Il ne faut pas que ça glisse. Il faut pouvoir courir derrière les camions. Donc c'est compliqué les chaussures. Voilà, donc on commence à, hélas, à avoir nos petits habitués. Donc on sait ce qu'ils aiment pas, comment ils aiment se fringuer, pas se fringuer. Donc c'est aussi un moment de partage et d'échange. Voilà, ça demande beaucoup de logistique parce que les gens ont un peu tendance à penser que comme ils ont des besoins, on leur donne tout et n'importe quoi. Donc on a eu robe de mariée, bonnet de bain, des draps, des peignoirs, enfin des choses complètement inappropriées. Donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Nous, on a un mail Camo Vêtements, donc quand les gens passent par le mail, on leur précise quels sont les besoins. Donc c'est principalement des pantalons slim parce que voilà, c'est des jeunes ados, ils ont la même mode que les nôtres. Hein. Enfin ça reste des jeunes avec plein d'espoir et je pense que l'apparence et les vêtements font partie aussi d'une toute petite part de leur moins mal-être, si on peut les aider un petit peu par là. Moi, mon engagement, il a commencé au tout début, quand les jeunes sont arrivés sur Ouistreham, où dans un petit supermarché du coin, j'ai acheté du pain et de l'eau au gars qui était devant moi. Et je me suis fait interpeller par des gens dans la queue et par la caissière qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte, peut-être qu'il a plus d'argent que vous, il profite, il a 20 euros par jour. » Et là, je me suis dit « Mais c'est pas possible, quoi. » Je suis rentrée chez moi en pleurant, j'en ai parlé à mon mari, je me suis dit « Mais on peut pas ne rien faire. » Alors tous ces gens-là, on les fera pas changer, mais si moi, à mon niveau, je peux aider les garçons et puis pas me soucier, et leur apporter la preuve qu'on peut faire des choses et des choses bien. Voilà, donc l'engagement, il est parti de ça. Donc oui, il y a des gens qui empêchent, mais moi, je préfère regarder tous ceux qui font, et pas ceux qui font pas, et ceux qui, voilà, qui ont des mauvaises valeurs, et qui sont pas les nôtres.
Oui, mais
Abdallah,
il est là, lui.
Bah oui. Abdallah.
Au Camo, il y a aussi des traducteurs et des traductrices. L'une d'entre elles, en gardant l'anonymat, nous a permis de nous entretenir avec le jeune Abdallah.
Salam alaikum. Kayfa halak? Mumkin tqul laha sannak? Sannak chhal fi omrak?
15.
15 ans. 15 ans. Mundu ay mudda wa anta fi Ouistreham?
15 ashhur.
15 yom?
15 ashhur.
15 mois.
بعملنا بالعقل بس فقط. بالعقل وفي بعض الناس في الملابس. هكي ومن بعض الناس في العقل. لكن الشهر ده كعب.
Il nous aide avec la nourriture, avec les habits, mais avec la police c'est difficile.
ما أعرف يا. ممكن ربما تضرب على الرباط ممكن يمنعك ممكن يمسكك ممكن تخش جوا الميناء يمسكك في السجن يوديك ناس دور فتحنا مسجنين من داخل الميناء مسجنين بالسيارة ودينا مسافة 5 كيلو خارج المدينة هذا.
Il nous empêche d'aller au port, il nous maltraite et quand il nous trouve, il nous embarque dans des voitures et il nous emmène à 5 km d'ici.
برشك في وشك وممكن أصلاً تنوم في الأسليب ممكن يقول لك عليهم ممكن يجيك الساعة 6 صباحا 5 يقول لك على الدجاج
ils nous disent dégage ils nous je ne sais pas pourquoi ils m'emmènent à 5 km ils nous frappent ils nous gazent ils nous disent dégage ils n'arrêtent pas de nous dire dégage
في الحواجنا برش فيها البقاق وربما تشاكل معه تعمل معه يعني ربما تحاول تحارب لدينا احنا عندنا فيديوهات في بعض الناس مسجلين في التلفونات ربما نحاول نمشي على منزل الشرطة محيطة حق الضابط نقول له هذا الكلام مو صح يعني المصري في مترجم مصري باللغة العربية في داخل الميناء ربما انت تمشي تقول عمرك 15 او 14 عام المصري يقول لك يزيد اكثر من هذا يعني بقول لك 20 عام 15 بقول لك كبير يودوك السجن هسه في ناس 4 نفر ودوم رين بحكم 6 شهور 3 شهور ربما حتى تقول عمرك صغير المصري المترجم باللغة العربية
Il dit que quand il les attrape et qu'il les emmène à la gendarmerie, il y a un traducteur égyptien qui ne traduit pas convenablement leur âge. quand ils ont 15 ans, il dit qu'ils sont plus âgés. Ils sont plus âgés.
Il n'est vraiment pas le seul à dire ça. C'est un témoignage récurrent.
Est-ce que tu es d'accord pour m'expliquer un petit peu ton long parcours pour arriver ici en France?
Dans notre pays, on a été chassés au Darfour. En Libye, on a été torturés. On vient ici, on nous maltraite. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on veut aller en Angleterre.
Merci, Abdallah.
Merci beaucoup.
Shukran jazilan, Rabbi wafakalkum. Yahfadkum, inshallah.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Radio Campus Tour sur le 99.5 FM. Vous écoutez toujours Sortez. Et vous venez d'écouter un reportage sur les migrants de Ouistreham proposé par Radio Parleur. Je vous propose d'aller écouter les autres contenus proposés par Radio Parleur sur radioparleur.net. On se quitte en musique et on écoute. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écouter? Eh bien, nous allons écouter Saudage, Pocor, l'air. Bonne soirée à tous à l'écoute de nos programmes. Outre l'esprit caillard.